Chapitre 6. Borrego Springs compte moins de 4000 habitants. Carter Yergen n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre dans un endroit aussi torride, aussi sec, aussi poussiéreux, avec tout juste assez d'eau pour survivre. Même les palmiers ont l'air stressés. Et la seule tache de verdure se tapit à Christmas Circle, le petit parc du centre-ville. Le reste se résume à des hectares et des hectares de bitume et de béton, sans parler du désert qui menace certains quartiers. Il n'a aperçu nulle part de restaurant français digne de ce nom, ou même proposant de la nourriture comestible. Le motel local le plus huppé n'a pas la moitié des étoiles auxquelles il est habitué. Aucun magasin ne propose de vêtements de marque. Curieusement, les autochtones paraissent heureux. Ils sont même d'une amabilité insupportable. Tout le monde lui souhaite le bonjour dans la rue. Cela fait près de 36 heures qu'il se trouve dans cet enfer. S'il lui fallait y passer le restant de ses jours, il s'enfermerait dans son garage, démarrerait sa voiture et attendrait que le monoxyde de carbone l'asphyxie. Il se coucherait même devant le pot d'échappement pour accélérer le processus. Le jour où réussira la révolution, il passera tout son temps dans les plus grandes métropoles et les stations de vacances les plus huppées. Il est possible que les habitants de Borrego Springs soient heureux au prétexte qu'ils sont supérieurs aux âmes obscures des hameaux perdus ou des maisons isolées des alentours. Yergen et Dubose rejoignent l'un de ces trous paumés, constitués de 4 maisons de plein pied construites le long d'un chemin de terre, à l'égard de Borrego Springs Road. L'accès au chemin est bloqué par un Jeep Grand Cherokee, près duquel montent la garde 2 Arcadiens vêtus de blousons du FBI. Yergen et Dubose ont eu l'occasion de croiser le matin même, lors d'une réunion, l'ensemble des agents réunis dans la vallée, qu'ils relèvent du FBI, de la NSA, de la Sécurité intérieure ou de plusieurs agences à la fois. Les 2 hommes du bureau reconnaissent le Vélociraptor et leur font signe de passer. 4 autres grandes Cherokees sont garées dans la petite impasse. Dubose se range devant le pavillon qui leur a été indiqué et les 2 hommes descendent de l'énorme Ford. En temps ordinaire, l'endroit serait plongé dans le noir à 2 heures du matin, faute de réverbères. Mais les fenêtres des maisons, toutes allumées, suffisent à dissiper la pénombre. Une épaisse couche de cailloux entoure le pavillon d'où s'échappent quelques cactus difformes. Yergen, fasciné par les chauves-souris qui croquent bruyamment des nuées d'insectes nocturnes, ne s'est jamais senti aussi peu à sa place que dans ce décor étrange. L'un des 3 agents qui ont reçu pour mission de modifier les occupants de la maison ouvre la porte. « Ahmed Aladel !» se présente-t-il, conscient que les 2 visiteurs n'auront pas retenu son nom lors de la réunion qui s'est déroulée quelques heures plus tôt. La trentaine, une silhouette élancée, l'homme est issu d'une famille d'immigrants irakiens. À l'image de tous ceux qui ont débarqué dans ce petit lotissement armé de glacières contenant des mécanismes de contrôle, Ahmed est rasé de près et porte un costume noir, une chemise blanche, une cravate sombre. Il est arrivé avec ses collègues à 21h, mais quelle que soit l'heure, les agents du FBI sont toujours plus crédibles lorsqu'ils sont conformes aux stéréotypes propagés par le cinéma. Parce qu'ils opèrent incognito, Yergen et Dubose évitent le cliché des hommes en noir. Yergen a enfilé une veste sport ring jacket, un pantalon blanc du même créateur et des baskets Axel Arigato. Il porte au poignet une montre Graphstar Eclipse en titane au cadran intégralement noir. Dubose, qui s'habille toujours comme l'as de pique, donne l'impression de rentrer directement des champs sans avoir pris le temps de se changer. « Ils sont dans la cuisine », précise Ahmed. Au total, les 4 pavillons abritent 11 personnes qui ont reçu un implant cérébral. Au même titre que d'autres cobayes modifiés plus tôt dans la journée, ils ont été sélectionnés parce qu'aucun d'eux n'a moins de 16 ans. Leur système de contrôle de dernière génération est doté d'une fonction inédite, la chambre des murmures, grâce à laquelle ils peuvent communiquer entre eux par télépathie. Cette capacité fait d'eux des limiers incomparables, puisqu'il leur est possible de partager instantanément leurs découvertes. La maison dans laquelle viennent d'arriver Jürgen et Gubose abrite un couple. Robert et Minette Butterworth ont tous les deux la trentaine et sont enseignants. Il est prof d'histoire, elle est prof d'anglais. Assis sur des chaises de cuisine auxquelles ils sont entravés par des menottes en nylon, ils sont bâillonnés à l'aide de gros scotch. Il n'est pas rare que les modifiés se rebellent au cours de la période de 4 heures nécessaire à l'implantation du mécanisme de contrôle à l'intérieur du cerveau. Ils multiplient les questions, invoquent leurs droits constitutionnels et se montrent difficiles, au point qu'il est nécessaire de les museler. Robert et Minette sont livides, les yeux écarquillés par la peur. Mais le problème se trouve ailleurs. Ils n'étaient pas seuls dans la maison. Une jeune femme en fauteuil roulant, qui présente une forte ressemblance avec Minette, est également bâillonnée. Les deux collègues d'Ahmed Aladel sont présents, eux aussi. Malcolm Kingman est un afro-américain imposant, doté du visage et de l'attitude d'un homme d'église, mais avec le regard sans concession d'un juge du procès de Nuremberg. Zita Hernandez, une jolie femme de 30 ans, complète cette équipe pour le moins éclectique. Jürgen s'intéresse tout particulièrement à Hernandez, et pas seulement parce qu'elle est séduisante. Elle est vêtue d'un pantalon noir parfaitement coupé, d'une chemise blanche Michael Kors et d'un blazer noir Ralph Lauren. Seules ses chaussures laissent à désirer, mais Jürgen accepterait volontiers de lui prodiguer des conseils vestimentaires, après l'avoir déshabillée. La charmante Zita désigne la femme en pyjama dans le fauteuil roulant. Il s'agit de Glynis Galworth, la sœur de Minette, originaire d'Alexandria en Virginie. Elle rendait visite au Butterworth cette semaine. Elle dormait dans la chambre d'amis. On avait déjà bien entamé la procédure quand on s'est aperçu de sa présence. Jürgen accueille ces informations avec perplexité. Alexandria est une ville bourgeoise. Il a du mal à comprendre que l'on puisse s'échapper d'un lieu aussi sophistiqué pour passer une semaine dans ce pavillon perdu au milieu de nulle part. Glynis est paraplégique depuis l'adolescence, à la suite d'un accident, explique Zita. Elle travaille pour le département d'État à Washington, mais elle n'est pas au courant. Une façon de dire qu'elle ne fait pas partie des Arcadiens. Glynis semble aussi terrifiée que sa sœur et son beau-frère.
On se demandait s'il fallait lui injecter un mécanisme de contrôle à elle aussi, ajoute Kingman.
Dubose adresse un sourire à la jeune handicapée.
Madame, sans doute n'êtes-vous pas au courant des crimes commis par votre sœur et votre beau-frère. Nous intervenons dans le cadre d'une affaire de terrorisme touchant à la sécurité nationale.
Minette et Robert manifestent leur surprise en secouant vigoureusement la tête et en poussant des borborygmes de protestations étouffées par leur bâillon. Quant à Glynis, on la sent à la fois dubitative et perdue.
Nous disposons d'un mandat fédéral nous autorisant à interroger les suspects après leur avoir administré un sérum de vérité, improvise Dubose. Votre nom ne figure pas sur le mandat, mes collègues auraient dû savoir que la procédure ne vous concernait pas, mais la survie de la nation est en jeu et nous ne pouvons pas vous autoriser à assister à l'interrogatoire.
Sur ces mots, le géant quitte la cuisine en poussant le fauteuil roulant, traverse le salon et raccompagne Glynis dans sa chambre. Carter Jürgen adresse un sourire à Zita Hernandez, qui ne semble pas indifférente à l'intérêt qu'il manifeste à son endroit. Ahmed El Adel et Malcolm Kingman sursautent en entendant une détonation dans les profondeurs du pavillon, ce qui en dit long sur leur fiabilité douteuse. À l'inverse, Zita ne bronche pas, même lorsque résonnent deux autres coups de feu. Jürgen la trouve de plus en plus à son goût.